foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Virginie Bon. Bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler dans sur cette radio chrétienne. Parce que vous n'êtes pas particulièrement croyante, mais vous êtes, vous l'avez dit, à la recherche d'une paix intérieure. Et surtout, ce qui m'avait intéressé lorsque nous étions rencontrés, mais j'en reparlerai, c'est que vous avez fait un master de religion et société à Bordeaux.
Oui, ben, bonsoir, merci pour votre invitation. Effectivement, je suis en train de faire en fait ce master en religion et société à Bordeaux à distance. Donc là, je viens de finir le M1 que j'ai effectué en 2 ans, vu que je travaille à côté, et l'année prochaine, je ferai le M2.
Oui, parce qu'à côté de ça, vous avez fait plein d'autres études comme ingénieur, technicienne, enfin, peut-être.
Oui, j'ai...
Bon. Au départ, en fait, de famille dans le Midi qui n'est pas particulièrement croyante, mais vous m'avez dit, de culture, de tradition judéo-chrétienne.
Oui, c'est ça. Je pense que mes arrière-grands-parents et encore... plus loin, était de tradition et pratiquant judéo-chrétienne. Mais mes parents, eux, n'étaient pas particulièrement pratiquants. Je pense qu'ils se définiraient comme agnostiques, si je leur demandais. Voilà.
Baptisés, parce qu'il le faut, mais pas forcément de catéchisme. Et puis, c'est une... Mais par contre, des valeurs, des principes pour vous et votre petite sœur.
Oui, c'est ça. On n'a pas du tout été élevés dans la religion ou dans la pratique. On nous a baptisés, je pense, c'était surtout pour faire plaisir aux grands-parents et par tradition. Mais effectivement, ce qui les a plus motivés à mes parents, c'était de nous éduquer dans une, dans une dynamique où on était libre de nos choix et d'aller nous-mêmes chercher les réponses à nos questions.
Pourtant, certaines fêtes... Il y a Noël, il y a Pâques, parce que l'environnement, on fête, il y a des rites culturels peut-être.
Oui, Noël, Pâques, etc. Parce que c'est dans le calendrier, que c'est la tradition, mais je ne pense pas qu'ils y mettent particulièrement mes parents, un élément religieux là-dedans en fait. C'est plus par tradition et par habitude.
Puis alors après, beaucoup d'études dans différentes directions. Vous me dites, j'étais toujours un peu à contre-courant. Ma foi, j'y crois pas, mais je cherche.
Oui, je cherche.
À connaître le monde.
Oui, l'exploration, la quête de vérité, de sens, surtout la quête de sens. Donc je suis toujours allée un peu dans mes études là où on ne m'attendait pas forcément. Donc j'étais bonne dans tout ce qui était lettres, je suis allée plutôt faire des maths. J'ai fait un peu de génie thermique et puis après je suis revenue aux sciences humaines avec de la géographie, des sciences de l'éducation et là actuellement, après ma licence de philosophie, master de religion et société.
À côté de ça, plein de petits métiers parce qu'il faut gagner sa vie et entre autres justement j'ai bien aimé parce que vous me dites actuellement c'est de la modération sur le site et donc il faut essayer de voir où est-ce qu'il y a des... Message de haine, et on ne va pas parler pendant longtemps, mais expliquer peut-être pour ceux qui ne savent pas qu'il y a quand même une certaine surveillance de l'État ou de... Une charte légale de ceux qui diffusent des messages sur le web, dont Radio Présence peut-être.
Radio Présence, non, en tout cas moi je ne les ai pas en client. Effectivement, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur et j'ai effectué plusieurs missions, j'étais chargée de cours... conseillère d'orientation scolaire, mais actuellement je fais de la modération web. Effectivement, c'est pour plusieurs clients, des journaux et des médias sociaux. Effectivement, on est chargé de modérer les commentaires qui respectent pas une charte légale, c'est-à-dire qui sont discriminants, qui font un appel à la violence. Donc on a tout ce qui est racisme,
pornographie,
forcément
la lutte contre des minorités de genre.
Tout ce qui est discriminant et qui peut appeler ensuite à un déboulement de commentaires haineux, on le modère effectivement.
Avec deux types de gommes. C'est ça. Il y a des gommes que celui qui a envoyé le message ne verra pas. Et puis d'autres types.
Oui,
mais bon, on ne va pas rentrer dans la technique.
Ça dépend des clients. Mais effectivement, le but, c'est de ne pas laisser passer des messages qui sont hors charte légale et et qui peuvent atteindre ou blesser des personnes parce que commentaires haineux, voilà, que ce soit du racisme, de l'homophobie, de l'islamophobie, de l'antisémitisme, voilà.
Alors moi ça me pose la question, puisque cette émission c'est sur les croyances et les convictions, j'interroge la plupart de ceux qui viennent sur ce que la laïcité, Big Brother ou un œil qui nous surveille comme du temps de la Stasi ou en Pologne on disait attention quand on décrochait le téléphone, vous êtes sur écoute. Non, nous sommes dans une société de liberté de la parole et en même temps il y a des procès si on va outrepasser l'injure.
Oui. Pour vous répondre sur la laïcité, pour moi, la laïcité, en tout cas comme je la ressens, comme je la vis, c'est il peut y avoir des religions, il y a des pratiques religieuses, mais c'est pas ce qui est important. Tout le monde a la liberté en fait de croire et de pratiquer. Voilà. Pour moi, c'est ça la laïcité.
Toute croyance, même fausse ou erronée par l'autre, se respecte. Vous m'aviez dit, oh ben on s'en fiche,
oui.
Mais les religions ne font pas la loi. C'est le sénateur, enfin c'est les députés.
Ben, c'est ce dans notre État, nous, laïcs, oui.
Ouais. Dans notre République. Et en même temps, je parlais d'injures tout à l'heure, mais au nom de l'État français ou du législateur, le blasphème n'existe pas. La laïcité, c'est de dire toutes les croyances se respectent, sont respectables. On peut changer de croyance, ce qui n'est pas le cas partout. Et alors, blasphème pour vous ?
Alors, au niveau légal ou au niveau d'un État, je ne sais pas, ça peut se discuter. En tout cas, moi, mon avis sur le blasphème, c'est effectivement, moi, vu que je ne crois pas, effectivement, je ne peux pas blasphémer par principe, puisque je n'y crois pas. Après, j'ai bien conscience que des gens croient et que, dans ces cas-là, tenir des certains propos seraient pour eux blasphématoires et offensants, donc voilà, j'évite aussi de le faire quand j'ai conscience que les personnes croient.
Si on pense pouvoir injurier Dieu, ça veut dire que Dieu existe. Or, si quelqu'un ne pense pas que Dieu existe, à ce moment-là, il n'est pas atteint par une dénonciation de ce qu'il ferait ou de ce qu'il ne fait pas par rapport au mal.
Ah, effectivement, quelqu'un qui ne croit pas et qui blasphème, il est pas, lui, il ne croit pas, donc il n'est pas touché par ça. Après, on a quand même conscience en fait que d'autres croient. Et les propos, quand ils sont... Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de ne pas blasphémer, surtout quand je sais que des personnes pourraient être blessées par ça, voilà, par respect. Comme
ne pas injurier l'autre, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mmh. En fait, plus qu'injurier Dieu, puisque moi, je n'y crois pas, en tout cas, injurier l'autre, j'évite.
Nous ne sommes plus en France, c'est heureusement, à l'époque où on brûlait des livres, où on brûlait la Bible qui était écrite en juif, parce que ce n'était pas la bonne Bible, où lorsque l'on accusait des protestants, de traduire ou de mal traduire en français. Alors la Bible pour vous ?
Oui, effectivement dans l'histoire il y a eu des persécutions par rapport à des croyances qui n'étaient pas les croyances majoritaires ou souhaitées, mais pour moi la Bible c'est pour les personnes qui y croient, qui sont chrétiennes ou pas, hein. Enfin, on l'avait vu avec les Quakers, on en reparlera peut-être après. Mais,
oui, parce qu'en fait, nous nous sommes retrouvés dans une assemblée de Quakers et c'est là où nous avions bien discuté. Mais c'est vrai qu'il faut dire en deux mots que le culte, ce n'est pas vraiment un culte, c'est une grande méditation à Toulouse. Nous avons eu d'ailleurs Madame Kim Chevalier qui est venue nous en parler.
Secrétaire de...
au niveau local des Quakers. Et en fait, c'est surtout un grand temps de silence et de recueillement.
Oui, chez les Quakers, en tout cas en France, c'est un culte non programmé. Donc effectivement, il y a la Bible, mais tous ne sont pas... Enfin, en tout cas, ne se définissent pas comme catholiques. Et c'est une pratique un peu libre de recueil et de communion ensemble et en silence. Moi, je les ai étudiés du coup pour mon master. Et c'est vrai que... Si on doit comparer ce culte par rapport à ceux qui existent et un peu classiques comme on s'imagine, ça fait plus penser à de la méditation, même si du coup c'est une recherche de lumière intérieure et c'est quand même en lien avec, avec Dieu.
Pas de hiérarchie, des témoignages intimes et puis surtout une entraide, une communauté de personnes qui recherchent, comme vous d'ailleurs, à la recherche d'une paix intérieure, la vérité.
La vérité, la paix, ouais.
Et en même temps... Je crois qu'il y a, une recherche aussi de l'art, de la poésie et de la musique.
Oui, ça fait partie des pratiques méditatives, contemplatives, oui.
Et d'ailleurs, merci de nous avoir apporté une musique dont vous nous donnez les titres et puis après vous nous expliquerez pourquoi.
Oui, donc j'ai plus les noms des personnes, mais c'est Humans, et c'est une création avec c'est un groupe d'électro qui a fait un partenariat avec une chanteuse et ça nous raconte un peu.
Vous allez nous le dire, merci.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, Virginie Bon, vous venez de terminer un master de religion et de société à Bordeaux sur les Quakers, entre autres, et vous êtes à la recherche d'une paix intérieure. Alors cette musique, c'est la paix intérieure, ça swing quand même, c'est du électro.
En tout cas, c'est ce qu'elle m'inspire. Je crois un peu au signe du destin parfois, donc je l'ai entendu. J'étais à la salle de sport, je l'ai entendu alors que je savais que j'allais avoir cet échange avec vous. Et je l'ai trouvée très belle puisqu'elle parle, elle raconte l'histoire, elle est inspirée du fait que deux hommes durant un safari ont failli se sont fait charger par des éléphants et un des hommes avait pas eu le temps de remonter dans la voiture et avait très peur de mourir et a couru après la voiture pendant que l'autre homme lui criait dessus de remonter et ça, voilà, cette musique a été inspirée de ce fait-là et pour moi elle raconte un peu l'humanité, en fait, notre élan vital et comme on s'accroche à la vie et comme parfois on se sent vivant dans les moments les plus difficiles aussi.
Oui, mais ils étaient imprudents, ils étaient naïfs de venir s'approcher aussi près d'une grosse bête. L'homme ne peut pas tout, il y a une sorte de démesure s'il va... Alors, parce que vous avez utilisé un mot, le destin, moi je suis aussi sociologue de la laïcité et réfléchis sur la religion... la faute, le péché, tout ça, ce sont des notions qui sont compliquées. Et puis Dieu, alors Dieu, il accepte le bien. Ah oui, pour vous ?
Pour moi, pas de. Enfin, moi, je suis athée, donc pour moi, pas de Dieu. Alors, du coup, pour moi.
Le destin, alors.
Pour moi, destin, c'est un peu le chemin où il m'amène. C'est un peu mon intuition. C'est pas quelque chose, en tout cas, que j'attribue à une entité supérieure. Mais je comprends que certains le fassent. Après, péché, paradis, enfer, etc., c'est des choses auxquelles moi, je ne crois pas. À mon avis, après, ça a une fonction aussi sociale. Et par contre, j'ai quand même des principes. Et j'ai ce qu'on appelle une morale. Donc, je clive aussi entre le bien et le mal, finalement.
Hiérarchie des valeurs. Mmh. Alors, bon, alors, pas de destin, pas de prédestination, mais se pose quand même une question. Vous êtes étudiante et pendant un certain temps à faire des entretiens, à interroger des personnes dans un master scientifique, religion et société. Ça veut dire que nous avions parlé, quelle est la différence entre le savoir, les connaissances et la croyance et les convictions, l'engagement ? Vous voyez, c'est une question de philosophie, mais bon, nous sommes ici à parler et des auditeurs s'interrogent sur ce que c'est que le savoir. Est-ce que parfois, la science n'a pas été à l'encontre d'un certain nombre de dogmes poussiéreux ou surannés ou de fausses représentations du monde et de l'homme ?
Si, parfois, après, à mon sens, la connaissance est quelque chose de dynamique qui évolue dans le temps. On a besoin parfois aussi de se tromper pour trouver après d'autres vérités qui ne le sont finalement que de façon éphémère. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce master religion et société, c'est d'étudier l'histoire des religions parce que ça fait partie de mon histoire aussi, même si moi, je me considère comme athée. Et de pouvoir, peu importe que ça soit la vérité ou pas, mais de pouvoir aller à la rencontre de d'autres vérités que la mienne et sans juger, voilà.
En essayant de comprendre l'autre, l'empathie, ouais. Pour savoir pourquoi est-ce qu'il... qu'est-ce qui fait courir les militants ? Qu'est-ce qui fait que... s'il n'y a plus d'idéologie, si tout se vaut, si on est dans une équanimité des valeurs, à ce moment-là, il n'y a plus d'engagement ? Ou pourtant si ? Vous disiez le bien et le mal ?
Oui, moi, dans ma façon de vivre de façon personnelle, j'en ai forcément des principes et des valeurs. Et parfois, j'ai des engagements, forcément.
Forcément. Pour vivre heureux, vivons cachés, restons ou restons chez soi.
On en a tous. Après, on les met plus ou moins en axe et de façon plus ou moins regroupée avec d'autres personnes qui ont les mêmes. Donc, je pense pas qu'il y aura plus d'idéologie un jour. Je pense juste qu'elles évoluent et qu'elles se transfèrent sur d'autres... d'autres aspects de la société.
Se sentir à sa place.
Oui.
Sentir que nous sommes en phase avec la nature. Sur le site, vous avez choisi une photo que je trouve magnifique, un coucher du soleil avec ses ombres et ses lumières. Mais elle a toute une histoire,
oui.
Cette photo.
Oui, oui, c'est vrai. Je l'ai choisie parce que c'est une photo qui, moi, m'apaise aussi beaucoup comme la musique que j'ai choisie. Parce que c'est le coucher du soleil que je vois quand je rentre chez mes parents et que je marche vers chez eux. Donc je l'ai prise, je pense, l'année dernière. Ça devait être l'été. Et c'est cette sensation de jour qui se termine et de rentrer à la maison. Voilà, donc c'est une sensation de paix et de confort qui est finalement peut-être encore meilleure que celle de la joie ou du bonheur qui est toujours un peu agité. Voilà, la paix, c'est quelque chose que je recherche. Et quand j'ai des moments comme ça de paix, je les photographie ou je les fige dans ma tête.
La nuit, c'est le repos, c'est l'apaisement. Ce n'est pas cette menace, comme certains pourraient le croire, avec les cauchemars, le coronavirus et toute cette inquiétude qui fait que certaines personnes ne peuvent pas s'endormir. Et vous, vous allez vers la paix, vers ce soleil qui se couche.
Oui. Pour moi, il y a des gens qui angoissent aussi du jour. Hein, donc finalement, c'est plus quelque chose... Enfin, c'est une sensation très intérieure finalement. Et moi je me sens apaisée quand le soleil se couche et apaisée quand le soleil se lève parce que dans mon quotidien, j'essaie d'agir pour me sentir ainsi. Voilà.
Pour ça, la prière, vous dites, ben oui, c'est des moments aussi de réflexion sur soi et de recueillement.
Oui, moi je donc pas pour moi pas la prière en soi puisque je suis pas.
Vous ne parlez pas à quelqu'un qui serait dans un autre monde, notre Père qui est au ciel.
C'est
non,
ça,
c'est
non.
Pas ça.
Pas pour moi, mais je comprends ceux qui le font parce que c'est un moment de recueillement et à titre personnel, je pratique on va dire, plus la méditation, la relaxation. Et pendant ces moments-là, je fais un peu le point sur moi, mais aussi sur l'autre ou les autres et mon rapport aux autres. Donc, c'est important de prendre ces moments-là.
Alors, dans votre métier comme sociologue, en tout cas étudiante, c'est l'observation participante. Vous êtes dans un groupe, vous participez, vous avez de l'empathie pour les personnes avec qui vous allez dialoguer pour essayer de comprendre leur motivation. Mais cette observation, elle est aussi une introspection de vous-même.
Oui.
On connaît bien, je parle trop, pardon, cette phrase de Platon, connais-toi toi-même. Et souvent, on oublie les deux autres parties de cette citation. Tu connaîtras le monde et les dieux. Mais ça, c'est une philosophie qui date de plusieurs milliers d'années. Et oui, se connaître, être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres. Et notre nature actuellement, on va dire qu'elle se venge à cause de la maltraitance des hommes et que du virus ne serait-ce qu'un retour des choses. C'est de l'idéologie, non ?
On peut l'interpréter comme ça. Après... forcément, on vit avec la nature, donc à un moment, je ne suis pas sûre que c'est la personnifier de dire qu'elle se venge. Je ne suis pas sûre qu'elle se venge, mais en tout cas, c'est sûr qu'on récolte des conséquences d'une période d'industrialisation. Enfin, ça, c'est très factuel.
Oui, mais vous dites le problème, l'humain. C'est quelle est ma place dans cette société ? Qu'est-ce que je peux changer de moi-même par rapport aux puits acides ou bien aux taxes carbone et autres. L'engagement politique ?
Moi j'évite parce que il y a une phrase, je crois que c'est Winston Churchill qui disait que je ne voudrais pas appartenir à un groupe qui voudrait de moi. Donc c'est aussi dans mon éducation, j'ai pas souvent été dans des groupes un peu en électron libre finalement. Se rapprocher d'un groupe quand j'avais des idées communes et des engagements ponctuels et savoir s'en détacher quand c'était pas forcément le cas puisque c'est difficile d'être en accord avec un groupe de personnes tout le temps et sur tous les points.
Pas d'attache, pas de fidélité alors ?
On peut avoir de la fidélité sans faire partie de... Se créer son propre groupe finalement. Pas un groupe forcément constitué, mais dans mes relations sociales, professionnelles, je prends le temps de choisir, oui.
C'est toute la question des institutions, et ça, vous êtes bien placé pour savoir comment une église ou un groupe parfois se chosifie ses croyances et qui a toujours peut-être besoin de prophètes ou de personnes qui vont dire on va innover d'une autre manière tout en restant fidèle à ce groupe qui, à un moment donné, avait une véritable fonction dans la société, comme les églises, où certaines sont devenues des sectes, et puis d'autres continuent à transmettre un message, une sagesse.
Oui, en plus, le terme secte en France est toujours très, très péjoratif.
Alors en Amérique, c'est pas du tout... du temps de Weber, en France, il y a de cela plusieurs... il y a 120 ans, c'était au sens positif du terme, comme les ramifications...
Oui, parce que c'est souvent ça, finalement. En France, c'est pas les sectes qui sont interdites, elles sont même pas définies, c'est les dérives sectaires qui sont, par contre, surveillées.
Par une commission nationale... de surveillance des dérives sectaires.
C'est ça.
C'est de nouveau la question de la liberté, la liberté d'agir, la liberté de penser, de parole. Et d'ailleurs, vous nous avez apporté, parce que malheureusement notre entretien tourne à sa fin, une pensée qui vous habite.
Oui. C'est une citation de... J'ai plus le nom de la personne, Zora Neale Hurston, qui disait, si je prononce bien et je dois me tromper, mais en tout cas, sa citation disait qu'il y avait des années qui apportaient, qui posaient des questions et d'autres qui y répondaient. Voilà. Je trouvais ça très vrai.
On peut dire aussi qu'il y a des journées qui posent des questions et d'autres jours qui y répondent. Et vous nous avez apporté dans cet entretien aussi, je pense, un certain nombre de questions et vous avez répondu à d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup,
merci
Virginie. Et merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.
Yes.